Ils sont apparus sur les champs de bataille il y a un peu plus d'un siècle et demi. Ces hommes et ces femmes se sont donnés pour mission de raconter la guerre au plus près des lignes de front.
Vous êtes étudiants tous?
Oui. Et toi, tu es journaliste?
Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans.
25 ans? T'as pas peur?
Non.
Les forces démocratiques syriennes, alliance de miliciens kurdes et de combattants arabes, estimaient à 2000 le nombre de personnes retranchées dans Barouz. En réalité, 15 000 en sont déjà sortis. Cet exode massif a ralenti les opérations militaires.
Cela fait bientôt 7 mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus, sous l'œil impassible de la communauté internationale.
Bonne marche à Sarajevo pour France Info.
Bonne marche à Sarajevo pour Radio-Canada.
Bonne marche à Sarajevo pour RTBF.
Le Quai d'Orsay vient de confirmer que nos deux confrères de RFI ont été retrouvés morts à Kidal. Claude Verlon et Ghislaine Dupont avaient été enlevés aujourd'hui à la mi-journée en pleine ville par des hommes en armes.
C'est le Depuis 1944, ils sont plus de 2000 à avoir perdu la vie en tentant de nous informer.
En cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, instaurée en mémoire de l'assassinat au Mali des deux reporters français de RFI il y a tout juste 6 ans, et après l'annonce, mardi, des lauréats du prestigieux prix Albert Londres, focus ce matin sur le métier de grand reporter. Outre cette journée et ce prix, par ailleurs, deux films mettent à l'honneur des journalistes au cœur de conflits. Il y a d'abord Camille, de Benoît Lochtine, qui est en ce moment sur les écrans et qui retrace le destin de la photoreporter Camille Lepage, tué en 2014 en République centrafricaine. Et puis prochainement, on pourra voir sur les écrans Sympathie pour le diable, qui suit la vie du journaliste Paul Marchand à Sarajevo pendant le siège en 1992. Un journaliste qui avait pour credo la phrase suivante: un journaliste se doit d'être à l'endroit exact où on lui interdit d'être. Voilà qui va nous servir de point de départ pour cette discussion aujourd'hui entre nos deux invités. Benoît Vidkine, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le lauréat du prix Albert Londres de la presse écrite qui a été remis mardi pour une série de 6 enquêtes que vous avez publiées entre 2018 et 2019 sur l'Ukraine dans le journal Le Monde, puisque vous êtes correspondant du Monde à Moscou. Vous avez fait des enquêtes sur l'Ukraine, sur la Tchétchénie, sur les coulisses de la guerre de l'information russe en Estonie. Nous y reviendrons peut-être au cours de cette discussion. Et puis avec nous également Gwendoline de Bono. Bonjour.
Bonjour.
On entendait votre voix dans ce montage sonore réalisé par notre réalisateur. Vous êtes grand reporter à Europe 1, 2 fois prix Bayeux des correspondants de guerre, une première fois en 2017 pour un reportage intitulé « L'entrée dans Mossoul » effectué auprès des unités spéciales, et puis un autre en 2018 pour un reportage sur des femmes djihadistes dans un camp de réfugiés en Syrie. Puis avant cela, vous aviez été au Mali ou encore en Centrafrique. Je voudrais qu'on parte donc de cette phrase, qui est une phrase attribuée à Paul Marchand, ce journaliste qui était au cœur du conflit en Bosnie en 92 et qui était là pendant le siège de Sarajevo, qui est donc au cœur de ce film Sympathie pour le diable. Un journaliste se doit d'être à l'endroit exact où on lui interdit d'être. C'est aussi votre credo, Gwendoline de Bono?
En tout cas, c'est une phrase assez juste. Évidemment que si on dit à un journaliste sur le terrain, vous ne pouvez pas aller là-bas, on va normalement essayer d'y aller. Enfin, j'ai plusieurs exemples en tête. Par exemple, avec les forces kurdes, c'était assez compliqué. Enfin, il y avait une volonté de ne pas emmener les journalistes très loin sur les fronts avec eux pour plein de raisons. Parce qu'il y avait des forces spéciales étrangères, parce qu'il y avait parfois des deals passés avec les djihadistes pour leur permettre d'avoir un couloir de sortie. C'était interdit d'accès. C'est évidemment un endroit où on a envie d'être, parce que c'est interdit. Il y a plein d'exemples comme ça, évidemment. Mais par ailleurs, il y a aussi plein d'endroits autorisés où c'est difficile de bien faire son travail et c'est difficile de comprendre ce qu'il y a devant soi. Donc c'est pas nécessairement des endroits interdits, c'est des endroits où on peut accéder. Je sais pas, par exemple, si moi j'allais en Irak dans les manifestations ou au Liban, c'est pas des endroits interdits, c'est des endroits où on peut aller. Mais voilà, ça va être beaucoup de travail important à faire, mais de comprendre les ressorts de ce qui se passe.
Benoît Vidkine, est-ce que vous prendriez cette phrase également à votre compte?
C'est une belle phrase, effectivement, en tout cas. Et j'apporterai la même nuance, oui, que notre métier ne se limite pas aux endroits interdits. Et cette phrase, elle s'applique aussi, moi, elle m'évoque finalement moins le travail de correspondant de guerre que celui de journaliste en général. Cette phrase, elle s'applique à le journaliste d'investigation financière qui va réussir à mettre son nez dans des documents secrets de cabinets d'avocats ou de banques qui révèlent des malversations. La phrase s'applique encore plus à lui qu'à ce que correspondant de guerre.
Alors, l'un et l'autre, vous n'êtes pas toujours sur des terrains de guerre. Par exemple, vous êtes correspondant à Moscou hein, pour le journal Le Monde, Benoît Vidkine. Ça n'est pas un pays en guerre, même si vous allez sur les terrains de guerre. Gwendoline de Bonneau, peut-être un peu plus. Pourquoi vous choisissez ces terrains-là en particulier? Alors, pas seulement parce que c'est interdit, mais parce que c'est dangereux. Il y a une forme de goût du risque, il y a un amour du terrain particulier, du conflit.
Je crois qu'au début, en tout cas, moi, j'ai jamais, à aucun moment dans ma vie, je me suis dit je veux être reporter de guerre. Vraiment jamais. Je voulais être journaliste. J'ai été m'installer dans un pays, la Colombie en l'occurrence à l'époque, qui était un pays en situation de conflit. Donc les mécanismes du conflit, tout ça m'a très vite intéressée. Et ensuite, je me rappelle le premier gros conflit que je couvre vraiment, c'est la Syrie en 2012 à Alep. Et là, c'est vrai qu'il y a, évidemment, il y a l'intensité de ce qu'on voit. Hein. En l'occurrence, à l'époque, un État qui s'en prenait à sa propre population dans des proportions absolument gigantesques. Et surtout, on comprend l'immensité des connaissances à acquérir entre le reportage, ce que racontent les gens, qui sont les combattants, comment ça marche au niveau politique, au niveau diplomatique. Il y a beaucoup d'entrées quand on couvre quelque chose. Il faut être de tous les côtés, il faut travailler vraiment beaucoup. Du coup, on finit par avoir une connaissance plus fine d'un pays. Et du coup, on a envie d'y retourner. Et pour moi, ça s'est fait comme ça, en tout cas. Mais
pourquoi aller loin, Benoît Vidkine?
Moi, je vais pas si loin. Si on parle de conflit, le conflit principal que j'ai suivi ces dernières années, c'est l'Ukraine. C'est presque devenu impensif de le rappeler comme une façon de... On parlait de Paul Marchand, les anciens essayaient de réveiller les consciences en rappelant ce genre de choses. C'est à 3 heures d'avion de Paris, donc on va pas forcément loin. Et moi, ce qui m'a aussi passionné, c'est également les mécanismes de basculement. On apprend énormément à travailler au contact des belligérants, c'est passionnant, et c'est, vous l'avez dit, parfois on le reconnaît pas, parce que, puis chacun a sa propre histoire, évidemment que l'adrénaline, le côté grisant peut jouer un rôle, et ça c'est principalement du côté des belligérants. Moi, avec le temps, je trouve plus intéressant de travailler aux côtés des civils, et notamment la période qui m'a le plus fasciné, mais aussi terrifié, c'est le basculement des civils dans des logiques de guerre. Comment des peurs, des frustrations se transforment en logique de haine et donc de guerre.
Gwendoline de Bonneau.
Après, il y a aussi quelque chose de très intense, évidemment, dans les conflits, dans les rapports humains. Je trouve c'est un peu un révélateur de personnalité. On voit tout de suite des choses qui sont dures, mais aussi des choses qui sont fantastiques, dans la solidarité entre les gens, par exemple. D'une manière générale, que ce soit dans la peine, dans la souffrance, dans l'humour, dans la joie, dans vraiment une... Les relations sont amplifiées, tout est amplifié.
On voit beaucoup de bassesse, on voit beaucoup de choses dures, l'as dit, mais ce qu'on voit de courage chez des gens, pour le coup belligérants ou civils, c'est un courage qu'on ne peut pas voir par définition ailleurs, et c'est pas uniquement celui qu'on montre face aux bombes, face aux balles, c'est le courage d'être plus encore solidaire que les autres hommes qui sont dans des situations plus normales, plus humains, plus fraternels, plus bons, tout simplement. Et ça, c'est des choses inestimables à voir.
Ce qu'on voit beaucoup dans les deux films que j'ai évoqués, à la fois Camille et Sympathie pour le diable, qui sortira le 27 novembre prochain, c'est un positionnement du journaliste dans ces conditions-là. Et ce positionnement, il peut prêter à discussion, d'ailleurs, dans Sympathie pour le diable. À un moment, on assiste à une dispute entre Paul Marchand et une journaliste de CNN à propos des conditions de vie du journaliste. C'est-à-dire qu'elle a envie de filmer les journalistes parce qu'ils sont obligés de donner leur sang aussi comme les populations qui ne vivent avec rien. Et lui dit, mais on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler d'eux. Ce qu'on voit aussi assez bien dans le film Camille, c'est à quel point il y a une abnégation, il y a une mise de côté de sa propre personnalité pour ne surtout pas se mettre en scène. Mais manifestement, tous les journalistes ne suivent pas cette position. Quelle est la vôtre, Gwendoline de Bonneau, par rapport à ça?
Moi, j'ai toujours le sentiment, quand je couvre un conflit, que ce soit en Irak, ou à Gaza, ou en Syrie, peu importe, et que je parle à des gens qui sont dans des situations assez dures, c'est pas qu'ils viennent d'échapper à un bombardement ou qu'ils viennent d'être blessés, j'ai toujours l'impression de m'incruster un petit peu. C'est très spécial de déranger les gens, et la seule raison pour laquelle on peut se permettre ça, c'est pour expliquer au mieux ce qui leur arrive, tous les enjeux de la situation, l'ampleur de la situation. Et donc là-dedans, c'est tellement énorme et tellement gênant que moi je vois pas du tout l'intérêt qu'il y aurait à parler de moi, et ce serait
même... À se mettre en scène.
Et ce serait complètement déplacé. Enfin, vraiment, ce serait quasiment insultant. Pour moi, je pense ça, mais...
Benoît,
je suis évidemment d'accord. Se mettre en scène, c'est... On l'entend, les mots choquent, quoi, l'idée de se mettre en scène dans des situations comme celle-ci, face à des gens à qui il arrive des choses réelles. En revanche, parler de soi, pourquoi pas, ça peut être utile, mais vraiment épisodiquement.
Vous dites « je » dans vos reportages écrits
non,
pour
jamais.
Le Monde?
Non, jamais. Alors oui, on a parfois un « on » un peu hypocrite qui revient en quelque sorte à du jeu, mais le jeu, qui soit camouflé, pas camouflé, il peut être intéressant, c'est-à-dire dans les logiques de guerre, et encore, ça a toujours été le cas, mais de plus en plus, la façon dont l'information se fait, la façon dont les belligérants nous la donnent, la façon dont ils tentent de la manipuler, dont elle est reçue par les acteurs du terrain, joue. Donc, épisodiquement raconter la façon dont on obtient ces informations, dont on les interprète, ça peut être intéressant pour le lecteur, l'auditeur. Pour moi, ça doit être ça la norme, c'est pas se faire plaisir, c'est raconter au mieux une situation. Et la logique de création de l'information, elle est devenue vitale, centrale.
Il y a des cadres aussi pour ça. Enfin, je veux dire, là, par exemple, c'est un très bon cadre pour parler de comment on fait ce métier, on n'est pas quelque part. Moi, je sais que j'aime pas du tout quand je suis quelque part, qu'on me demande comment ça se passe, mes conditions de vie ou mes conditions de sécurité, genre de ça, je trouve que c'est pas le sujet. Forcément, il y a des cadres pour ça. Après, il y a aussi le médium pour lequel on travaille. Évidemment qu'un journaliste
selon ce
télé
qu'il vous demande.
Voilà, et puis évidemment qu'un journaliste télé qui fait un plateau au milieu de son sujet, enfin, il y a absolument rien d'aberrant s'il apporte une information. Donc tout ça est aussi assez cadré.
Bonavikine.
Se mettre en scène, encore une fois, évidemment, non. En revanche, parler de soi, alors il y avait ce que je disais sur les coulisses d'une certaine façon, mais il y a aussi des choses qui émanent de soi et voire parfois même de ses propres rédactions qui sont des principes qui continuent à nous animer et que certaines, alors toutes les rédactions n'ont pas les mêmes façons de faire. La mienne, Le Monde, par exemple, affiche assez régulièrement dans des éditoriaux des grands principes. Et alors, de quelle façon ça peut percuter des zones de guerre? Bah, c'est des grands principes tels que le respect des droits humains, tels que le respect de l'état de droit, tels que le respect du droit international. Et ces choses-là, on peut les faire apparaître, je pense, dans nos travaux, soit en filigrane, soit de façon même explicite. C'est-à-dire que l'époque est assez confuse, donc je pense que c'est important que les gens sachent de quelle position on parle. Et on peut, je pense, quand on décrit une situation, quand on décrit une scène, on la décrit point final. Quand on essaye de donner alors ce qu'on appelle entre nous la big picture, c'est-à-dire le tableau général de dans quel contexte se passe cette situation, on peut, je pense, poser ses valeurs, ses principes comme des repères.
Je vous propose d'écouter la voix du vrai Paul Marchand, donner sa propre conception des choses. Écoutez-le.
Je crois que pour ressentir la peur des gens, il faut être aussi vulnérable qu'eux. Et c'est ce que je trouve très très excitant en cette situation, c'est que le matin, quand vous vous levez de votre lit, vous n'êtes pas sûr que la nuit suivante, vous serez dans le même lit. Vous serez peut-être à la morgue ou vous serez peut-être dans un lit de l'hôpital. Bon, si demain je m'en prends une, j'espère que j'aurai suffisamment de vie pour cracher à la figure des journalistes qui vont faire des commentaires sur Marchand, c'était ceci, c'était cela. Non, Marchand, c'était rien, il a joué, il s'en est prévu, et basta cosi.
Oui, il va loin, hein, Paul Marchand. Mais il permet de poser aussi cette question de la peur et de la vulnérabilité, de comment vous gardez l'un et l'autre dans ces situations un peu extrêmes. La distance, le sang-froid, est-ce que, je sais pas, comme un chirurgien, vous êtes obligé d'acquérir une forme d'insensibilité, parce que sinon ça vous touche trop, quoi, ça vous affecte, Gwendoline de Bonneau?
Non, je dirais pas insensibilité.
Mise à distance, allez, c'est insensibilité.
Oui, après, je sais pas, pour la vulnérabilité, oui. De toute façon, moi, je parle pour moi, parce que je suis pas une journaliste locale, enfin, je travaille que dans des endroits qui ne sont pas mon pays, où j'ai pas de membre de ma famille en Irak, en Syrie, ou en... Donc, je serais jamais vulnérable comme quelqu'un qui habite là-bas, enfin, jamais. Donc, c'est une vulnérabilité relative.
Vous
aussi.
Savez que vous pouvez être rapatrié, par exemple, s'il y a un problème.
Bah, je sais que mes parents sont pas à même, enfin, vont pas se prendre un bombardement ou mon compagnon ou mon enfant. Enfin, il y a quand
ah oui,
même.
Ah oui, vous parlez même de la famille.
Oui, oui, je parle de la vulnérabilité extrême aussi, c'est d'avoir tout son environnement qui est mis en danger, ce qui moi n'est jamais mon cas. Enfin, tant qu'il n'y a pas la guerre à Paris, ça n'est pas mon cas. Donc, quand je vais là-bas, je trouve qu'il y a une vulnérabilité qui est relative. Et après, sur le risque, c'est moi, je trouve évidemment normal d'accepter la part de risque. Ce serait, et je pense que c'est une erreur d'ailleurs de vouloir se protéger de tous les risques et de l'éliminer complètement.
La mise à distance, Benoît Vidkine, c'est aussi parfois une mise à distance par la volonté de ne pas prendre parti, de rester neutre. Alors ça passe, vous le disiez l'un et l'autre, par interroger tous les cas, aller aussi bien voir les civils que les combattants, etc., de toutes les parties. Mais ce qu'on peut voir et qu'on voit dans le film Sympathie pour le diable, c'est aussi le risque à un moment, quand on se sent impuissant parce que finalement nos articles ne débouchent sur rien, n'ont aucun impact, ou qu'on a vraiment envie d'intervenir, on devient acteur. C'est-à-dire on passe à l'action, on prend le risque de participer et de ne plus être seulement spectateur. La mise à distance, c'est aussi celle-là. Est-ce que vous l'avez ressenti parfois ?
Pour moi, c'est pas un réel problème. On a des règles, ça paraît très, très strict dit comme ça, mais on a des principes, encore une fois, dans la façon de faire notre métier qui nous guident et qui sont assez simples. On sait qu'on vient faire notre travail. Alors ensuite, je pense que ce que...
Votre travail, c'est quoi? C'est de témoigner?
Ouais, c'est de témoigner, bien sûr. C'est d'expliquer. Alors, il y aurait 15 façons différentes de le dire. Chacun d'entre nous le dirait sans doute de façon différente. Je pense qu'expliquer, c'est le plus important, ouais. Parce que, face à nous, on n'a pas seulement des mots à mettre sur des images. Les images, finalement, les gens commencent à les connaître. Ils y sont de moins en moins sensibles. Ils commencent à les connaître parce qu'il y a la télé, parce que, alors les guerres sont toutes différentes, mais en partie elles se ressemblent. En revanche, ce qu'ils ont aussi sous les yeux, c'est énormément de confusion. Et c'est là où on peut vraiment apporter quelque chose. C'est dans l'explication.
Et là, vous dites quelque chose qui touche vraiment au reportage que vous avez pu faire, hein, Benoît Vidkine. Parce que vous avez couvert la guerre en Ukraine depuis 2014 et vous pointez du doigt, ou de la plume même, le problème des fake news extrêmement problématique sur place, et vous en avez même fait des sujets de reportage, les infox en Ukraine.
Je pense que
donc la confusion règne et le journaliste doit essayer de
clarifier. La confusion, elle règne toujours à la guerre. Les belligérants mentent par principe. Et là, il s'agit de savoir comment, pourquoi, même de façon toute bête, tel belligérant annonce tel nombre de pertes. Il se trouve qu'un jour, il aura intérêt à les gonfler, ces pertes, pour attirer la sympathie, le soutien. Le jour suivant, il aura intérêt, au contraire, à les minimiser par rapport à son opinion publique. Donc là, on doit vraiment non seulement enquêter, hein, c'est savoir quelle est la réalité des pertes. On ne le fait pas tous les jours. Parce
vous pouvez
que
aller
pas...
à la morgue compter les morts pour être...
Ça m'est arrivé une fois, une seule fois.
Au bout
de quelques mois de guerre, ça intéresse plus grand monde de savoir combien de morts tel jour. Mais au tout début, quand les premiers morts comptent, oui, il faut le faire. Et moi, ça m'est arrivé une fois, oui, dans une ville, de faire la tournée des hôpitaux. Et sinon, sur la guerre de l'information, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, ou même, ça a même un autre nom beaucoup plus clair, qui a été théorisé par l'armée russe, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Et la guerre hybride, c'est une théorie qui a été appliquée en Ukraine plus que nulle part ailleurs. L'Ukraine, je pense, a été un vrai laboratoire. Je suis pas le seul à le dire. Il y a un consensus, il y a des choses nouvelles qui ont été faites. Et la guerre hybride, elle prend différentes formes. Ça peut aller jusqu'à la corruption d'acteurs locaux. Mais le point principal de la guerre hybride, c'est la confusion est une arme. Et donc, on peut annihiler les principes, la résistance, la rationalité de certains des acteurs, que ce soit des combattants ou des civils, avec des fausses informations. On peut... C'est un peu ce que je vous disais au début, jouer sur leur peur, sur leur fantasme. Et on peut, de cette peur et de ces fantasmes, faire de la haine. Et ça, l'Ukraine a été un laboratoire terrible, terrible pour ça. Moi, j'ai vu des gens assister, par exemple, dans les débuts de ce conflit, quand c'est encore un conflit civil qui n'a pas encore d'armes, assister avec moi à une manifestation dont les participants, c'était la dernière manifestation pro-ukrainienne dans la ville de Donetsk, les manifestants se font détruire sur pièce à coups de barre de fer. Les mêmes gens, 3 semaines plus tard, me disent une autre version qui, en fait, est tout simplement ce que les agences de presse russes ont vendu à leur population et par ricochet à eux parce qu'ils ont les mêmes sources d'informations. Ils croyaient plus qu'ils avaient entendu ensuite à la télé russe que ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux.
Dernière question à tous les deux, puisque vous êtes très jeunes l'un et l'autre. Est-ce que vous avez l'impression que le métier a changé? Est-ce que vous en parlez avec, vos pères plus vieux? Est-ce qu'ils se comportaient de la même manière? Ils se comportent de la même manière? Vous vous comportez de la même manière qu'eux? Est-ce que le métier est plus dur? Enfin, tout ça, est-ce que ça change tout ça? Benoît Vidkine.
La phrase du film où on entend Paul Marchand parler lui-même, on entend cette espèce de romantisme un peu bravache qui existe en partie encore aujourd'hui, mais qui, je crois, existe beaucoup moins. Donc ça, au moins, je pense que ça a changé. Ensuite, non, les grandes bases restent les mêmes.
Et les grands principes, et l'éthique.
Après, il y a quand même une acceptation du risque, moi, je trouve, qui a diminué. Mais qui va avec la société, par ailleurs. Mais du coup, qui se répercute sur notre métier, à mon avis, c'est pas une bonne chose. On accepte de moins en moins le risque, ce qui est pas forcément terrible. Et je trouve qu'il y a un petit peu moins aussi de... Alors, ça ne vaut pas pour Le Monde qui reste un journal à le faire, mais de couverture. C'est-à-dire de ne pas envoyer quelqu'un 2 semaines sur une histoire, faire une double ou un reportage, mais de couvrir l'histoire sur la longueur. Et ça, je crois que ça a tendance à se perdre un peu et que c'est une grande erreur.
Gwendoline Debono, grand reporter à Europe 1, 2 fois prix Bayeux des correspondants de guerre. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Benoît Vidkine, correspondant du Monde à Moscou. Vous y repartez tout de suite, là.
Tout de suite.
Lauréat du prix Albert Londres de la presse écrite cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous également ce matin.